Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois, mais ce qu'on a vu, c'est que on ne peut pas vivre sans espoir, sans espérance. Hein? Espérer, là, c'est comme la respiration de l'âme. Hein? On ne respire plus, qu'est-ce qui arrive? On n'espère plus, qu'est-ce qui arrive? On meurt. De différentes façons. Hein? Une personne qui est désespérée, là, elle va s'enlever la vie, puis elle va tuer tout le monde, puis il n'y a plus d'espoir. Et ça, ça affecte notre physique, ça affecte notre mental, notre morale, notre spirituel. Alors, c'est un thème très important, l'espérance. Hein? Et il y a un élément essentiel à l'espérance. L'autre côté de la médaille. Hein? Si tu as un côté, tu as l'espérance sur la médaille, mm-hmm. Et de l'autre côté, ça va être la foi.
Une médaille.
Hein? Une médaille à trois côtés parce qu'il y a l'amour aussi. Hein? La foi, l'espérance, l'amour, en tout cas. Alors, il n'y a pas d'espérance sans foi et il n'y a pas de foi sans l'espérance. Hein? L'une n'existe pas sans l'autre. La foi est morte, l'espérance est morte s'il n'y a pas de foi, et la foi est morte s'il n'y a pas d'espérance. Il y a un verset bien connu qui donne une définition de la foi. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. L'espérance, c'est en qui est-ce que je me confie? En qui est-ce que je crois? En qui est-ce que je mets ma foi? Tout est là. Hein? L'espérance, elle est directement proportionnelle à la personne en qui je mets ma foi. Si tu mets ta confiance dans une personne qui est malhonnête, qui est tordue, qui n'est pas fiable, qui me fait toutes sortes de promesses, toutes sortes de faussetés, ça va être quoi le résultat? Épouvantable. Hein? Une déception épouvantable. Dans Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme ou la femme qui se confie dans l'Éternel. En lise, est-ce qu'on peut vivre d'espoir?
Mm-hmm. Mais comment? La grande question, hein? Alors, comment vivre l'espoir? Jésus lui-même a dit, « Faites-moi confiance. Ayez foi en mes paroles. » Et les disciples ont dû faire ça aussi, faire confiance à Jésus. Et leur entraînement, leur formation a duré 3 ans et demi. Jésus voulait les préparer à son départ. Il ne serait pas tout le temps physiquement avec eux. Mais parce qu'ils savaient qu'est-ce qui les attendait, la persécution, beaucoup de persécution. Alors, ils étaient en formation, hein, et il y avait le meilleur enseignant sur la terre, et dans les cieux, Jésus. Et alors, un jour, Jésus leur dit, « Allons de l'autre bord. » Hein? Des fois, on a entendu ça dans notre vie, hein? « Ous, allons de l'autre bord. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Une tempête. Hein? Est-ce que Jésus était surpris? Une tempête a fait paniquer des pêcheurs expérimentés. Ils étaient désespérés. Ils étaient au bout de leur capacité. Et pas d'espoir d'échapper au naufrage. Là, ils voyaient vraiment qu'est-ce qui les attendait. Et que fait Jésus? Il dort. Que font les disciples? Ils le réveillent. Ils paniquent. Ils agissent, ils le réveillent. Ça se peut que dans nos vies, hein, en tout cas dans ma propre vie, qu'on a cette impression, Jésus, il dort. Les cieux semblent silencieux. Il y a même un livre qui a été écrit, hein, « Quand les cieux semblent silencieux ». Alors, on dit, « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça arrive? Pourquoi tu n'agis pas? » C'est correct? Ah! Jésus ne nous entend pas. Oui, il ne nous voit pas, il ne nous entend pas. Ça, c'est possible? Non, non, hein? Alors, mais Jésus, avant de partir physiquement, il faut qu'il mette le doigt sur le bobo, sur leur faiblesse. Il les connaît bien, là, hein? Ça n'a pas pris de temps. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il met le doigt sur la faiblesse, le peu de foi. Hein? Croyez en moi, faites-moi confiance. Il l'avait dit, hein? C'était pas la première fois. Parce que Jésus sait très bien que quand on lui fait confiance, qu'on a foi en lui, il ranime notre espoir. Hein? Il ranime notre espoir. Il nous donne la paix et une assurance. C'est ce qu'on désire, mais hein, faites-moi confiance. Et j'ai une petite définition de l'espoir, c'est bon aussi que j'ai. L'espoir, c'est mettre en action, c'est mettre la foi en action quand douter serait plus facile. Hmm? Quand douter serait plus facile.
Il y a la tempête prise deux. Hein? Ça, c'est la première tempête. Jésus dans la barque, c'est rassurant, hein? Et puis, il apaise la tempête, fait un miracle extraordinaire. Et là, il les renvoie dans la tempête. Il oblige les disciples, hein? C'est écrit. Il obligea les disciples à monter dans la barque, mais cette fois-là, il ne sera pas là. C'est sans lui. Un pas de foi, hein? Supplémentaire. Parce que bientôt, il sera plus là, lui non plus là. Donc, il les prépare à affronter la tempête quand il ne sera pas là. Alors, ils les laissent tout seuls dans la barque. Ils ont l'expérience de la tempête qui a été apaisée quand même. Mm-hmm. Hein, ils ont cette expérience-là, ils ont vécu ça. Là. Ils devraient avoir la foi, ils devraient avoir confiance. Mais là, ils sont pris dans les vagues, il y a des vents contraires. Est-ce qu'ils vont avoir de la foi? Qu'est-ce que vous en pensez? Jésus n'est pas là. Qu'est-ce qui arrive? De quoi est-ce qu'ils ont peur? Oups. De quoi est-ce qu'ils ont peur? De Jésus. C'est un fantôme. Ils ont peur de Jésus. C'est plus facile de croire au fantôme que de croire en Jésus.
Qui marche sur l'eau.
Qui marche sur l'eau. Hein?
Ça alors, se peut pas.
Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Puis là, Pierre, il y a une idée complètement... Dans mes notes, j'avais mis folle, mais Lise a dit non, dis pas ça. Hein?
C'est un geste.
Ma boule? Démesurée. Oh, ouais. Hein? Pierre, il y a une idée.
Hors norme.
Surhumaine, si on peut dire. C'est quoi son idée? Il va aller rejoindre Jésus sur l'eau, quand même. Hein? Mettons-nous dans sa peau, là. Il voit Jésus, mais qu'est-ce que ça lui prend pour débarquer puis marcher? « Si c'est toi, ordonne. » Hein? Il a déjà entendu ça, Jésus, là. « Pierre, suis-moi. Lâche tout, puis suis-moi. » Puis Pierre, il l'a fait, il l'a-tu regretté? Jamais. Puis là, il y a une autre occasion. Mais ça y prend une parole du Seigneur. Hein? Il n'aurait jamais fait ça sans avoir la conviction, sans avoir la parole de Jésus qui pouvait marcher sur l'eau. C'est sur l'ordre du Seigneur. Est-ce que il a marché longtemps? La foi, c'est ça, hein? C'est Marie-André qui, quand j'ai partagé ça, elle a dit, elle avait entendu un message qui disait, la foi, c'est ça dure, il faut que ça dure. Hein? La foi de Pierre n'a pas duré. Aussitôt qu'il a regardé la tempête, aussitôt qu'il a dévié ses yeux de la tempête, qu'est-ce qui est arrivé?
Ses yeux de chair.
Il s'est mis à couler. Tant qu'il regardait Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Aussitôt qu'il a mis ses yeux, il s'est concentré sur les difficultés. Lorsqu'on se concentre sur les difficultés, sur les problèmes qu'on a, qu'est-ce qui arrive? Le désespoir. On coule. Alors, mon frère, ma sœur, là, je ne sais pas que... Tu es en train de vivre, là. Mais regarde à la bonne place. Puis tu vas pouvoir marcher sur l'eau. Tu vas pouvoir faire quelque chose de surhumain, de surnaturel, si tu regardes à Jésus, dans la situation que tu vis, qui humainement est désespérée. Et la réponse de Jésus, c'est « Homme de peu de foi. » Hey, il vient de marcher sur l'eau, là. Hein? Il y en a combien qui auraient le courage de faire ça? Par la foi, il l'a fait, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein? Ça n'a pas duré longtemps. Alors, dans notre vie, lisez-moi. Hein?
Ah, mais avant, j'ai une petite remarque, moi. C'est pas en rouge, si vous voyez, là. Vous voyez derrière moi. Et c'est écrit que Pierre a crié. Hein? On crie au Seigneur, hein? Et il a dit, « Seigneur, sauve-moi! » Je ne pense pas qu'il a dit, « Bien, Seigneur, si ça te tente, là, c'est le temps. Hein? » Non, je pense qu'il était sincère. « Sauve-moi! » Et moi, qu'est-ce qui m'interpelle, c'est Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, mais Jésus a étendu, moi, je suis une visuelle, a étendu la main. » Et un jour, j'ai fait un sketch avec un verset, dans Psaume 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Alors, quand on devait étudier un peu ce passage-là, c'était dans l'Ancien et dans le Nouveau. Jésus étendit sa main. Alors, oui, dans notre vie, Michel et moi, on a pris des décisions humainement difficiles. Et ça arrive à tout le monde. Hein? Et je sais que ce n'est pas comparable à ce que plusieurs d'entre vous ont vécu. Hein, de quitter, mais on a pris une décision un jour avec la conviction que c'était l'appel du Seigneur, que c'était sa volonté. Et on a quitté notre famille, notre église, nos amis, pour déménager à Rouyn-Noranda. Et moi, j'étais jeune, 27 ans, et... Trois bébés, on a déménagé avec celui qui avait 15 jours après l'accouchement. Et Rouyn-Noranda, alors, en me préparant un peu à ce ministère-là pastoral, c'était pour être pasteur et tout ça. Et là, j'ai pris la carte du Québec et j'ai monté, Rouyn-Noranda. Moi, j'étais à Drummondville, alors, wouhou! Mais, comme je dis, il y en a qui ont pas mal fait plus de kilomètres que nous. Et... Michel a quitté aussi un emploi bien rémunéré. Il travaillait pour des ingénieurs. Et il est même ses patrons lui avaient dit, si ça ne fonctionne pas, parce qu'il trouvait que c'était un petit peu... Si ça ne fonctionne pas, on te reprend. Il n'y avait pas d'assurance. Pour eux autres, il n'y avait pas d'assurance. Alors, est-ce qu'on a vécu des miracles? Oui, mettez-en qu'on a vécu des miracles. Le Seigneur était fidèle. Est-ce qu'on a regardé les vents, les tempêtes? Oh que oui! Et on était inquiets, on a vécu de l'inquiétude, on a crié au Seigneur, « Seigneur, sauve-nous! On ne peut pas faire le paiement de la maison ce mois-ci. » Mais Jésus a toujours étendu sa main. Hein? Il a toujours pris notre main. Il était tout le temps là. Alors, pour nous secourir. Pierre était à l'entraînement, les disciples aussi, et nous aussi. Et on l'est encore. On est à l'entraînement parce qu'on a le meilleur coach. Alors, on peut lire dans Philippiens 4, 6 et 7. Moi, je pense que je vais lire ici. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Hein? » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors ça, c'est à conserver et à méditer jusqu'à mon dernier souffle.
pour ceux qui sont plus mathématiques, là, hein? Il y a une équation, là. Hein? Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. Première chose à faire, quand tu as un besoin, là, prières, des supplications, c'est pas rien, là, on supplie. Avec des actions de grâce. Merci, Seigneur, pour le malheur qui m'arrive. Il faut le faire, là. Hein? Faire une foi dans ce qui nous arrive, qui dépasse l'humain, là. Et le résultat égal, on va recevoir la paix de Dieu au milieu de la tempête. Une paix qui surpasse toute intelligence, toute capacité humaine. Hein? C'est surhumain d'avoir la paix au milieu de ce que tu vis, mon frère, ma sœur. Surhumain, c'est un miracle. Est-ce que Dieu fait des miracles dans ta vie, au milieu de la tempête? Mais-en. Hein? Ça, c'est surhumain. Puis il va garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Regarde à Jésus. Regarde pas les circonstances. Regarde pas les autres personnes autour. Regarde pas tes propres forces. Regarde à Jésus. Puis dis, Seigneur, je te fais confiance. Alors, comment on marche par la foi? Un pas à la fois, podes, hein? Un pas à la fois. Pierre, il fallait qu'il marche un pas à la fois. Il a fait un pas, il y a eu le miracle, il a fait un autre pas, il a coulé. Alors, marchons par la foi. La première qualité de l'amour est, vous souvenez? L'amour est, c'est quoi la première qualité de l'amour? Patient. C'est drôle, hein? La première marque, la première démonstration de l'amour, c'est la patience. Mon frère, ma soeur, es-tu patient? Ça, c'est la marque de l'amour. Hein? Et le premier signe de l'espérance, la première marque de l'espérance, c'est quoi? Nous nous réjouissons, même dans nos détresses, nous nous réjouissons. Ce matin, là, ça va mal dans ta vie, là? Paul dit aux Romains, nous nous réjouissons, même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience. Patience. Quelque chose de miraculeux, hein? La patience produit la fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée, l'espérance. Alors, ça marche comment? Entre le début de l'épreuve, pendant l'épreuve, puis la fin de l'épreuve, jusqu'à la fin, que ça soit terminé, c'est le temps de patienter. C'est le temps de patienter, d'exercer la foi, d'avoir confiance en Dieu. Et parfois, quand on fait face à la réalité, là, elle n'est pas belle, elle est épeurante, elle est troublante, mais tu as le droit, mon frère, ma soeur, d'avoir mal. Oui, dis-le, oui, ça va mal. Hein? Oui, ça fait mal. Oui, j'ai mal. Tu as le droit de le dire. Être patient, ça ne veut pas dire que je ne ressens plus rien, que je suis insensible, là. Il n'y a rien qui peut me toucher. Il n'y a rien qui m'affecte. C'est pas ça. C'est pas ça, la foi. Non. C'est comme si on était déconnecté de la réalité puis on vit dans le déni. Non, c'est pas ça. Au contraire, être patient, la patience dont Dieu parle, c'est d'être vrai. Hein? Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu as le droit. Et pas peur. N'aie pas peur de ce que tu ressens. N'aie pas peur de ce que tu as sur le cœur. Et exprime-le à Dieu. Connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait? Qui a crié à Dieu son désespoir? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était vrai. Alors, sois vrai. Ça va mal? Ben dis-le. Exprime-le, vis-le. Hein? Et c'est pas facile de se connecter, là. Des fois, c'est dur de se connecter avec ce qu'on ressent parce qu'on va mourir d'une crise cardiaque. Hein? Mais, lis les psaumes. Moi, là, les psaumes, j'ai de la misère à me connecter avec ce que je ressens. Mais de lire des psaumes, c'est comme ça met des paroles sur ce que je ressens, ce que je vis. Et quand Jésus a crié « mon Dieu, pourquoi m'abandonner? » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récité le psaume 22. Les paroles de David. Alors, lis les psaumes. Exprime à Dieu ce que tu as, ta douleur, ta peine, ta colère, ta peur. Lise une histoire de...
Mm-hmm. Oui, parce que...
Quelqu'un qui exprime, hein?
Oui, des fois, on pense que la patience, la foi, c'est pour les ultra-spirituels. Mais si on est fidèle dans les petites choses, hein, ils vont nous en donner des plus grandes. Si on est patient dans les petites choses du quotidien. Alors, c'est l'histoire d'une maman et de sa petite fille qui, dans le quotidien, qui vit les mêmes choses que nous habituellement, hein, une fois par semaine ou par mois. Alors, c'est l'histoire de... Il y a un homme qui rentre à l'épicerie et il ne peut pas s'empêcher de voir une dame avec sa petite fille, une petite fille de 3 ans. Et un peu plus loin, dans l'épicerie, il ne fait pas exprès, mais il rencontre encore la même dame qui doit faire ses achats avec une enfant totalement impatiente et agitée. C'est 3 ans, hein? C'est normal. Mais, et la petite répète sans cesse, il l'entend très bien. « Je veux des bonbons, je veux des bonbons, je veux des bonbons. » Alors, la maman, elle lui dit, « Maintenant, Mimi, ça ne sera pas long. Attends un petit peu. » Alors, elle lui répète patiemment. Et dans l'allée suivante, à l'épicerie, et comme ça arrive souvent, hein, on rencontre les mêmes personnes, et là, il remarque, cet homme-là remarque que le ton de la petite fille impatiente a augmenté de plusieurs octaves. On peut dire que là, elle ne pleure plus, elle crie, là. Hein? Et la maman, toujours calmement, lui dit, « Mimi, calme-toi. Ça va être terminé dans quelques minutes. Hein? » Alors, arrivé au comptoir de crème glacée, alors ça, c'est tentant pour une enfant de 3 ans, elle hurle, elle est incontrôlable, la petite fille, et elle donne des coups de pied. Mais la maman reste cool et à voix basse, elle lui dit, « Mimi, assieds-toi, on est presque sortis d'ici. » Et rendu juste à la caisse, finalement, le monsieur qui a été témoin, il ne voit pas encore de signe d'impatience, de que la maman est hors de contrôle aussi. Les deux, là, ils ont envie de... Alors, et la petite hurle, elle donne des coups de pied, mais la maman dit, « Mimi, nous serons dans la voiture dans 1 minute et tout va bien aller, Mimi. Hein? » L'homme a tout vu, il est impressionné. Quelle super maman! Ouh! Hein? Et il ne sait pas si lui serait capable de faire ça. Là. Il se détient. Alors là, il y a une question à poser. Là, ça lui brûle les lèvres. Il dit, il se dépêche de rejoindre la maman. Et il dit, « J'ai pas pu vous aider, mais j'ai vu comment vous avez agi avec Mimi. Vous êtes formidable. » Vous êtes la maman, la super maman. Et la maman, elle le regarde, elle dit, « Monsieur, vous n'avez pas deviné, hein? N'est-ce pas? » Elle dit, « Mimi, c'est moi. » Hein? Alors, et c'est ça. C'est ça, j'allais me manquer un petit peu. C'est correct. Ouais.
Il faut se parler, hein? Ouais. Dans les psaumes, là, on se parle beaucoup. On parle à notre cœur. Et on enchaîne avec un art qui se pratique au Japon. En lise?
Mm-hmm. Je ne sais pas si
tu vas... Oh non, j'ai fermé. OK.
Ben, je peux lire ici. Ah, okay. Mais non, il faut qu'il lise avec moi.
Ça ne sera pas long.
OK.
Bon, ça résume un petit peu. Hein?
Mm-hmm.
Bon. Oh, on ne l'avait pas. Oh.
Ah, tu ne l'avais pas mis.
Ça l'aurait aidé, hein?
Lise, alors. Ça va bien aller. Bon. Alors, j'ai de la misère à lire, moi, de là-bas. Mais je ne veux pas vous tourner le dos. Peut-être que je vais lire, si vous voulez lire avec moi, parce que je ne voulais pas résumer, parce que je trouve que ça décrit bien un art que je ne connaissais pas. Et je pense que le milieu artistique ou tous les talents artistiques, il y en a plusieurs ici, hein, de toutes les sortes, je ne peux pas les nommer, mais cet art-là, mais vraiment, va bien avec le sujet. Alors, c'est l'art du kintsugi, ou valeur de la fêlure. Fêlure, quelque chose qui est... Hein? Alors, le kintsugi, qui signifie littéralement « jointure d'or ». Et l'art japonais est l'art de japonais de réparer une poterie cassée avec de l'or. L'art prend encore en compte le passé... De réparer une poterie gazée, l'art prend en compte de passer l'histoire, les accidents, loin de les cacher, de les dissimuler, de dissimuler les réparations, il consiste à les mettre en valeur. La cicatrice devient richesse, raconte l'histoire et enseigne que l'épreuve n'est pas le fin mot, mais peut devenir une opportunité de croissance.
Alors, c'est quelque chose. Au Japon, il y a plusieurs siècles, là, il y a un seigneur qui a brisé sa coupe préférée. Là. Il a détruit, elle est tombée à terre complètement cassée. Il y a un artisan, il a pris tous les morceaux, puis il en a fait une œuvre d'art. Il a recollé les morceaux avec des fils en or, et ça a donné quelque chose qui était admirable. Des gens ont apprécié beaucoup cette chose-là. Alors, la poterie qui était brisée était encore plus belle que l'original. Ça vous dit quelque chose? La poterie brisée que tu es est encore plus belle que l'original. Hein? Nous ne sommes pas juste un vase cassé. Nous sommes un vase nouveau. Et Dieu se sert de notre gâchis. As-tu fait des choses en vie ou on t'a fait des choses qui t'ont fait du mal? Dieu se sert de ce gâchis-là pour créer une nouvelle personne. Pour te renouveler, te donner un cœur nouveau, une nouvelle nature. Dieu redonne la vie à ce qui est brisé. Pas d'amen? Ou wow, vous pouvez dire wow aussi. Dieu redonne la vie à ce qui est brisé. Hein? Ou amen. Oh, c'est bon. Alors, j'ai lu cette semaine le psaume, hein? Je veux dire, le psaume 119, 71. C'est un avantage pour moi d'avoir connu la misère. Peux-tu dire ça? C'est un avantage pour moi, ma sœur, mon frère, pour toi, d'avoir connu la misère pour mieux apprendre tes préceptes, pour mieux apprendre à connaître Dieu. Crois-tu ça? Dieu va transformer en chef-d'œuvre cette vie-là. Nous sommes quoi? La nouvelle création. Il a commencé avec Adam et Ève, ça a mal tourné. Jésus est venu, puis il recrée l'humanité. Hein? Il renouvelle l'être humain. Et il est où cet être humain-là renouvelé? Regarde à côté de toi, là. Puis regarde-toi. Hein? Dieu recrée l'être humain. Tu es ce vase. Guéri, ce cœur guéri. Hein? Dieu va transformer ça en chef-d'œuvre. Oui? Est-ce qu'on a encore notre vieille nature? OK, je suis tout seul. Mais... Et cette nouvelle nature-là, de nature, elle est la première qualité de la vieille nature. Impatiente. Yes. Ah, stupide, oui. Impatiente. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est impatient. pas capable d'attendre. Je m'énerve, je suis frustré, je suis déçu. Ça, c'est réflexe humain automatique. Hein? Mais, bonne nouvelle, mon frère, ma sœur, t'as un nouveau cœur. Hein? T'as un nouveau cœur qui t'envoie un signal. Le nouveau cœur, il dit « Stop! Va pas là, ne te laisse pas emporter par l'impatience. Va pas là, stop. Tu as ce pouvoir-là en Jésus de marcher sur l'eau, de marcher sur cette situation-là qui humainement est difficile avec le regard sur Jésus, puis tu peux rayonner de joie, de paix. Tu as un nouveau cœur qui t'envoie un nouveau signal. Hein? Une nouvelle nature. Ta nouvelle nature, là, ce que tu es vraiment aujourd'hui, tu es patient, tu es patiente en Jésus. Hein?
Mm-hmm.
Exercer la patience, parfois, c'est comme marcher sur l'eau. Humainement, ce n'est pas possible. Hein? Ça dépasse notre capacité humaine. Alors, où est-ce qu'on regarde? Lisez-moi, là, on vend la maison, on déménage, on fait du désencombrement, vous en avez une partie là, ma bibliothèque, 1% de la bibliothèque qu'il faut que je donne. Hein? Et le nombre de choses qu'il faut préparer, là, si tu regardes à ça, là, tu ne dors pas là. Hein? Je sais, ce n'est pas grand-chose à côté de peut-être que des gens ont vécu ici.
Oui.
Mais... si on fixe les yeux sur nos capacités qui sont plus ce que c'était, sur les circonstances qui sont incontrôlables, qu'on ne contrôle pas, on coule. Mais si je regarde à Jésus, je vais avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Hein? Alors, pratiquez la patience. Pratiquons la patience dans les petites contrariétés à chaque jour. T'en as un automobiliste là, qui vient te couper, là. Hein? Le réflexe naturel. On ne sacque pas les chrétiens, là, mais... Hein? Klaxon, autant maudit. Hein? Tu peux exprimer, tu dis stop. Non. Je vais chanter des cantiques. Hein? Je vais remettre ce gars-là dans les mains de Dieu. Puis c'est pas, ma paix ne dépend pas de lui. Ma paix, elle dépend de Jésus. C'est-tu fiable, Jésus? Oui. Hein? Alors, si tu es fidèle dans les petites choses, quand les grandes épreuves vont arriver, tu vas avoir pratiqué, tu vas être exercé à pratiquer la patience. Alors, laissons la patience monter. Donnons la permission à notre nouveau cœur de s'exprimer. Si tu grattes, là, ton cœur, par-dessus, tu grattes l'impatience, là, qu'est-ce que tu vas trouver dans le fond du cœur? La patience. Tu vas trouver de la patience dans le fond de ton cœur. Et wow! Hein? Woman? 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 OK.
OK. Woman. 12.
Oui. Alors, en terminant, c'est toi qui le lis?
Non, c'est toi. Ouais.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté. Wow!
Non, tu peux le lire ici, toi.
Le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Quatre fois dans la même phrase, il parle de réconfort. Hein? Oui. Réconforter, pas juste pour qu'on file bien, qu'on soit bien, mais qu'on puisse donner au suivant, qu'on puisse montrer le chemin. Est-ce que le monde a besoin d'un sauveur? Est-ce que le monde a besoin d'être guéri? Oui. Qui va leur montrer? Qui va leur apporter cet espoir-là? Qu'il y a un sens à ce monde-là qui s'en va à sa perdition. Il y a un sens. Hein? Alors, des vases brisés qui ont été réparés, qui ont été guéris et qui sont remplis de réconfort, puis qui vont déverser leur réconfort sur les autres.
Alors, c'est moi qui ai le privilège de raconter une histoire de quelqu'un qui parle des tragédies qui ont eu lieu dans sa vie, dans la vie de sa famille, a pu réconforter des milliers de personnes en composant un chant. Et on va le chanter tantôt. Et c'est...
Horatio.
Oui, je sais, mais c'est que hier, j'étais en ligne dans des funérailles de quelqu'un que j'ai connu il y a...
50 ans.
Et un pilier au Québec, qui est venu au Québec, et M. Alexanian, un Arménien. Et une histoire qui a été racontée, c'était celle-là. Là, c'était tout un clin d'œil du Seigneur. J'ai dit, OK, oui, oui. Et même, on a chanté à ces funérailles-là, mais c'est lui qui choisissait, hein? Il avait préparé. C'est lui, et l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Ils l'ont chanté. Alors, j'ai dit, wow! Si je manquais de courage, le Seigneur était là, let's go, Lise, let's go. Alors, je veux juste vous dire que quand on s'engage, on ne sait pas tout ce que le Seigneur va nous donner en supplément. Alors, voici l'histoire de Horatio Spafford. Je sais que je le dis mal, là, mais c'est un Américain qui vivait à Chicago, un fervent chrétien. Et il avait une très belle famille, une épouse, quatre filles et un fils. C'était un riche avocat qui réussissait dans la vie et il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Chicago. Mais je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des États-Unis, mais à Chicago, il y a eu un feu vraiment qui a dévasté la ville, hein, qui c'est connu, là. Alors moi, je l'ai appris un peu. Et il a perdu tous ses biens immobiliers. Et pendant qu'il était dans cette tristesse-là d'avoir tout perdu, il perd son fils unique à 4 ans qui meurt d'une maladie grave. Alors, mais 2 ans après ça, après l'incendie, après la mort de son fils, il organise pour sa famille et pour lui un voyage en Europe pour prendre des vacances et se donner du temps de récupérer de toutes ces tragédies-là. Alors, mais juste un peu avant le départ, il est pris par des engagements dans son travail et sa famille doit prendre le bateau, sa femme avec ses 4 filles seules. Ils doivent partir pour l'Europe en disant « je vais vous rejoindre ». Mais malheureusement, le bateau sur lequel étaient sa femme et ses filles a entré en collision avec un autre navire. Et en quelques minutes, son épouse a vu ses 4 filles se noyer devant ses yeux. La petite fille, la dernière, avait 2 ans. Et quand elle est arrivée en Angleterre, elle a envoyé un télégramme à son époux. Elle a dit « sauvée seule ». Alors, tout de suite, Horatio a pu prendre, aussitôt qu'il pouvait, prendre un bateau. Et quand il était sur l'eau en direction de l'Europe, le capitaine est venu frapper à sa cabine et il a dit, « Nous sommes probablement au-dessus du lieu où vos filles ont été noyées. » Et Horatio, sa réaction, a eu une réaction de foi. Il a mis sa foi. Quand douter, hein, de l'amour de Dieu, ça serait plus facile. Alors, il y a eu une réaction de foi. Il a dit, je ne perdrai pas ma foi. Il est retourné dans sa cabine seul. Il a commencé à écrire ces mots. Hein? It is well. Hein? En anglais, c'est ça. It is well. Et ça, c'était en 1873. Et il a écrit ces mots et un musicien a mis de la musique sur ces paroles-là qui sont chères. Et ils ont, 4 ans après, ils sont partis pour, ils ont déménagé à Jérusalem, ce qui restait de la famille. Et après la Première Guerre mondiale, ils ont eu un ministère vraiment fructueux. Ils ont ouvert des orphelinats. Ils ont aidé vraiment dans l'entraide, là, donner des soupes fidèles dans les petites choses. Et son époux Horatio est mort 7 ans après être arrivé à Jérusalem, mais son épouse a continué à servir le Seigneur fidèlement dans leur ministère qu'il y avait. Ce cantique-là a donné espoir, a, comme on disait, réconforté, consolé, juste en chantant ces mots. On va le voir tantôt. C'est un vieux cantique, là, 19e siècle, mais je pense qu'il est encore puissant. Il révèle, parce que Horatio, ah oui, c'était « It is well with my soul », quel repos céleste. Et Horatio connaissait celui qui a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. » Jean 14, 26.
On termine avec un exercice pratique qu'on va vous laisser, qui dit tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, on a 25 paroles, promesses dans le Nouveau Testament sur lesquelles on peut trouver, patienter, qu'on peut trouver l'espérance et en prendre une par jour. On a un exemple, là. Je viens à toi, Jésus. On l'a personnalisé, là. Lisez-moi, on a mis ça dans le « je ». Hein? Je viens à toi, Jésus, moi qui suis fatigué et chargé, et tu me donnes du repos. On peut vivre ça. C'est pas juste écrit, là, dans un livre de recettes. Non, non. On prend la recette, puis on en fait un bon gâteau, puis on l'avale, on la digère. Hein? Donc, il y en a 25 comme ça. Ça va être un cadeau. C'est le cadeau qu'on vous laisse.
Mm-hmm. La diapo. Alors, venez les chercher après. Là, on va peut-être les mettre sur le comptoir. Prenez votre cadeau, la parole de Dieu, pour méditer, peut-être par jour. Le mettre dans une boîte, les découper. Et, oh, Seigneur, c'est quoi aujourd'hui? J'ai fait ça et wow! Ça va droit au but.
Alors, on est tous des vases brisés, hein? Mais non, ils ne sont plus brisés, là. C'est vraiment, c'est de l'art, hein? Divin. De l'art que l'Esprit de Dieu est en train de recréer une nouvelle humanité qui est ici présente. Et puis le Seigneur nous a laissé la table du Seigneur en souvenir de ce qu'il a fait. Que lui-même a été brisé, hein? Qui est-ce qui a subi le plus d'épreuves sur cette terre? C'est Jésus. Il a été brisé, il a été séparé de son Père. Une séparation éternelle. Et on va chanter. Quelqu'un qui va aller au piano, c'est ça, Hector. On va chanter « Quel repos céleste ». OK? Pour nous préparer à la scène. Tu es en train de vivre quelque chose de difficile, là. C'est, humainement, tu es désespéré. Ben, rappelle-toi cette histoire-là. Et chantons-le avec tout notre cœur.